je crois pouvoir dire historiquement ceci. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire.
Nous pouvons changer les conditions de la jeunesse et les conditions de la vie.
Montez l'oiseté !
Les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger.
Ashi Shokiro, poète armé de stylo, réserve de créativité, hangar, silo.
Rap, littérature, révolution.
De 13 à 14, c'est l'émission Montaigne Oise Thug, rap, littérature et révolution. Alors aujourd'hui, l'émission vient de loin, l'émission vient du ghetto. C'est une émission qui est née d'une rencontre fortuite. Alors je dois vous raconter que je me baladais, normal, tranks, dans mon petit ghetto, comme à mon habitude. Casque sur les oreilles, j'écoutais mon rappeur féministe préféré, Booba. Quand là, tout à coup, a surgi de derrière les buissons, Josiane Tabasco, la furie de la Tessie, la grosse thug de la street, la meuf qui ferait même flipper Tony Montana. D'ailleurs, on raconte dans le quartier que c'est elle qui a inspiré la chanson de Favla, de Faflarage, Ta Meuf.
Elle est dingue, elle est raide, elle est pas nette, elle met des balayettes.
Et donc, disais-je, Josiane Tabasco sort des fourrés, je flippe ma race. Elle, en guise de bonjour, elle me crache à la gueule, chope mon casque où résonnait de douces mélodies, le fracasse par terre et me dit « Wesh baltringue, encore en train d'écouter tes sons de puceau ?» Booba, c'est de la merde. Il fait le ouf avec toutes ses go dans ses clips. Mais tout le monde sait que lui, c'est la plus gros suceur de tout le game. C'est les meufs qui ont inventé le rap. Alors là, vous me connaissez, j'ai vraiment trop failli rigoler. Mais le respect dû à la chante, à la jante féminine, et surtout la peur de recevoir une bonne grosse patate de forain dans la face, m'en ont empêché. Hey, mais toi, petite chienne, malpague à nouveau Josiane Tabasco. Tu fais pas de la radio? « Si, lui répondis-je tout étourdi. Alors écoute, la prochaine émission que tu fais, tu m'invites et je t'explique la vie. Je t'explique comment les femmes ont tout inventé. Le rap, la musique, ton rouleau de PQ, tout quoi. Et toi, tu fermes ta gueule et tu m'écoutes pendant une heure. » Alléchante proposition que je n'ai pas eu le cœur de refuser et voilà pourquoi aujourd'hui, à Montaigne Oise Thug, nous accueillons dans les studios Josiane Tabasco. Alors vous allez voir, pour son passage à la radio, elle a pris une voix toute douce et adopte un vocabulaire châtié. Mais ne vous y trompez pas. Un mot de travers et je prédis un carnage dans les studios. Bonjour, mademoiselle Tabasco.
Bonjour, bonjour.
J'avais dit une voix très douce. Et dans les studios, nous avons aussi le grand Bertrand Amphibien qui est là pour voilà, il me sert aujourd'hui un peu de garde du corps, hein, si, au cas où il y a un dérapage de la part de Josiane Tabasco.
Et je n'ai pas peur.
Et il est là avec nous. Et il y a évidemment le chien de garde de Josiane Tabasco, Sophie, qui est là, qui vient la protéger, quoi. Puisque ça peut partir en couille. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Et bien sûr, à la technique, le magnifique Eugenio Negro, qui est là, mais qui va passer du côté des chroniqueurs.
Si ouais. Peu. Bonjour à tous. Il vaut mieux parce que technique, c'est un peu. Bon.
C'est
à tout de suite.
Ouais. Et donc voilà, mademoiselle Tabasco. Peut-être madame, je ne sais pas encore comment.
Ah, écoutez, maintenant, Tabasco ou Josie, si vous préférez.
Josie, vous allez nous parler aujourd'hui de donc, musique féminine, musique électroacoustique.
Oui, tout à fait.
Voilà, les bases du rap, c'est ça.
C'est cela. Parce que, écoutez, voilà, l'heure est grave. Il faut sonner le tocsin, là, c'est plus possible. Il faut revêtir nos chatoyants costumes dramatiques et crier en chœur. Parce qu'en temps. Écoutez, que mélomanes avertis, swingant à tout va de nos arrière-trains douillets sur des bribes musicales et samples variés, en tant qu'amoureux de douces rêveries littéraires, babillant à l'allégro des gammes que fredonnent les pages blanches euphoriques, en tant que mortels, vociférant contre les injustices dictées par les plus vaniteux de notre espèce, nous devons rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre. Et arrêtons donc d'escamoter les grandes dames de ces siècles sous prétexte que leurs confrères en ont une belle paire. Aujourd'hui, puisque la politique des chiffres nous envoie en pleine figure des nombres, des virgules et des statistiques comme autant de vaisselles en porcelaine jetées à la gueule de pauvres concubins désarçonnés, permettez-moi d'en énoncer quelques-uns à mon tour. Premièrement, les femmes représentent seulement 8% du capital groovy du jazz en France et seulement 2% d'entre elles sont instrumentistes. À titre d'exemple, illustrant cette ahurissante et rachitique proportion, cet été, au Jazz à Vienne, lors de la soirée French Touch, il n'y avait aucune femme, alors que sur scène, ils étaient 20 musiciens. Le Jill Evans Workshop, qui était de la partie, qui vient de Paris, était ainsi composé de 16 musiciens, aucune femme. Pourtant, une majorité de jeunes musiciennes peuplent les conservatoires. Où sont-elles sur scène, nom d'une Freya éberluée? Deuxièmement, rares sont les femmes chefs d'orchestre dirigeant leur propre formation. On en compterait peut-être 5 en France et encore, je suis large. Donc révisons nos classiques. Au XVIIIe siècle, Hélène de Montgeroux a été la première professeure femme dans un conservatoire de piano forte. Et elle a notamment enseigné le piano à Chopin, les gars, Chopin. Et qui la connaît? Étrangement, lorsqu'on tend l'oreille à son écoute, nos tympans surprennent du Chopin. Alors qu'en fait, si on suit la logique, c'est en écoutant du Chopin qu'on entend du Hélène Montgeroux. Tout d'Hélène. Je dis ça, je dis rien. Et ne parlons même pas du rock, qui est toujours autant à dominante masculine. Même les professeurs au conservatoire de Lyon en musique actuelle sont exclusivement des hommes. Et je me risquerais même pas à parler de rap, parce que autour de moi, mes confrères s'y connaissent un peu mieux. Hein ?
Oui. Bon, il y a James, mais elle a été disparue.
James. Oui.
Bien sûr.
Mais par exemple, il y avait cette jeune rappeuse afghane, Sonita, qui avait rappé contre le mariage forcé avec un code-barre qu'elle se dessinait sur le front. Et est-ce que vous en avez entendu parler ? Non, sauf sur Arte, vite fait, mais voilà. Donc bref, ça m'énerve, tout ça, ça m'énerve. Alors écoutez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, auditeurs de Radio Canu en tout genre, tenez-vous prêts. Aujourd'hui, nous nous envolons sur les ondes électriques des grandes dames de l'électroacoustique pour surfer nonchalamment sur les vagues sinusoïdales de leur art. Car non, physique, informatique, électronique, mécanique ne sont pas seulement les objets de désir des mâles en rut, quémandant à leurs épouses de leur concocter des steaks bien cuits au lit pendant qu'ils font mine de lire l'être et le néant. Des femmes sacrément talentueuses y ont excellé et je prêterai ma voix pour en démasquer quelques-unes des plus grandioses. Alors baissez vos caleçons, messieurs, c'est elles qui piloteront.
Voilà, donc aujourd'hui ça fait très peur, ça fait il y a pas de femmes dans le rap, mais en tout cas mademoiselle, madame Tabasco, vous avez beaucoup de flow, hein, vous avez débité à là un gros pavé.
Fais ce qu'on peut.
Et ouais, c'était du lourd. Et donc du coup, alors si j'ai bien compris le thème d'aujourd'hui, entre toutes ces punchlines et ça va être la musique électro-acoustique, si j'ai bien compris.
Mais alors qu'est-ce que l'électro-acoustique?
Exactement,
vous allez
la question que j'allais vous poser, mais comme vous êtes une féministe, vous anticipez les questions.
Mais
des
tout à fait, parce que voilà, j'ai inventé le concept de question, c'est pour ça. Donc, avant de se faufiler dans les méandres sinueux des sons électroacoustiques, auscultons le phénomène. Hein. Parce que qu'est-ce que l'électroacoustique? Me demanderont effectivement ceux qui ne s'y sont jamais frottés.
Ouais, nous.
Voilà,
par
vous,
exemple.
Par exemple. Eh bien, écoutez, c'est la contraction évidente entre électronique et acoustique, tout simplement, voilà. Et ça propose l'ingénieuse combinaison entre son enregistré naturel, bruit environnant, instrument de musique et traitement électronique sur ordinateur ou synthétiseur, entre autres. En résumé, pour vous épargner toute théorie pseudo-intellectuelle ou musicologue superflue, il suffit d'avoir au minimum un micro, un haut-parleur et un ordinateur. Et bim, vous êtes des putains de compositeurs électro-acoustiques. Voilà. En un sens, rien n'est plus
simple.
C'est
facile et c'est pour ça que les femmes y arrivent. C'est ça que, c'est ce que vous voulez.
Après, il suffit juste d'avoir plus ou moins de talent et d'inspiration. Il semblerait que les femmes, peut-être, en aient un peu plus. Mais. Donc, finalement, la musique électroacoustique qui a atterri sur notre terre au milieu du XXe siècle se déjoue donc des frontières entre mélodie, son naturel, bruit, harmonie, le tout dans des tribulations fantasques, électriques et ouples mesurées, hein, ça dépend. Et même si l'utilisation du bruit est l'une des principales caractéristiques de la musique électroacoustique, le bruit s'immisçait déjà dans de nombreuses compositions musicales antérieures. Par exemple, il y avait Debussy qui utilisait des bruits chelous, par exemple, Satie, les machines à écrire, voilà, la rap afro-mâché Ravel, Debussy, des trucs un peu percussifs, tout ça, enfin bref, le bruit était déjà dans certaines compositions. Mais c'est avec l'apparition de l'électronique qu'un véritable mouvement de recherche expérimentale, sonore et musicale est né. Ce serait Werner Meyerbeer, ce noir allonge de... Voilà, qui a endossé le modeste statut de démiurge de la musique électronique. Donc dans les années 48-49, il avait entamé seul des expérimentations sur la réalisation synthétique du son et il avait théorisé la possibilité de composer musicalement sur ces nouveaux matériaux. C'est lui qui a inventé le terme de musique électronique, rien que ça. Et il crée en 51, en compagnie d'un producteur de la radio de Cologne qui s'appelle Herbert Emmert et du technicien Robert Beyer.
Donc c'est une musique née à la radio, quoi, aussi.
Mais oui, mais c'est ça qui est ouf aussi. Et la musique électronique est née de la radio. Et en fait, en gros, il serait possible de diviser ce mouvement électroacoustique en deux courants. Ce qu'on appelle la musique concrète, c'est-à-dire le modelage d'un matériau préexistant issu de son naturel. Vraiment une musique acousmatique dans le sens de Pythagore, qui dispensait ses cours derrière un rideau, et qui pourrait s'apparenter à un travail de sculpture sonore.
Qui dispensait ses cours derrière un rideau?
Mais oui, vous n'êtes pas au courant. Parce qu'en fait, Pythagore, en gros, il s'était rendu compte que quand il donnait ses cours
Pythagore,
derrière...
Pythagore, le grec qui a inventé le théorème de Pythagore.
Oui, c'est ça. Et du coup, il s'est rendu compte que quand il dispensait ses cours derrière un rideau, on l'écoutait plus que si on le regardait dispenser ses cours. Et donc il s'est dit que c'est peut-être ça qui pourrait intéresser plus Louis, finalement, de ne pas voir. Et donc c'est pour ça que, plus ou moins, enfin, Pythagore, il a été aussi l'inventeur de la radio. Voilà.
D'accord. Ah ben, c'est bon ça, à savoir ça.
Et donc ça, c'est la musique concrète. Donc vraiment l'idée de se concentrer simplement sur les sons pour faire une espèce de sculpture sonore artisanale. Et d'autre part, ce serait une musique plus intellectuelle, au sens où sa réflexion, son concept précède sa réalisation. Et donc l'électronique serait juste un moyen d'y parvenir. Donc c'est ce qu'on disait entre une musique intellectuelle, genre qui serait le résultat de recherches plus ou moins poussées sur...
C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, pour voir si j'ai bien compris, j'ai l'idée de vouloir faire une musique qui va parler, je ne sais pas, de la mort, et je me demande d'abord, donc a priori, par le concept, comment je pourrais parler de la mort en musique.
En musique, et donc peut-être utiliser l'électronique avec des nappes de synthétiseurs assez... assez lente, voluptueuse comme ça pour essayer de donner l'idée du chaos, de je sais pas quoi. Et donc là, ce serait
L'autre côté, ce serait de partir du son
naturel qui nous du quotidien, etc. Ouais. Et de s'en servir comme finalement œuvre d'art en elle-même. Voilà, il y a ces deux visées là.
D'accord.
Voilà.
Il y aurait une vision conceptuelle comme on retrouve dans la peinture.
Mais c'est dans tous les arts, finalement. C'est dans tous les arts. Ce serait...
C'est au même moment ?
C'est au même moment.
Un peu plus tard.
Un peu plus tard, ouais. Parce que c'est vraiment au niveau... c'est quand l'électronique est apparue qu'il y a pu avoir finalement cette visée-là aussi d'utiliser l'électronique pour peut-être... Parce que finalement, je vous ferai écouter des extraits et tout, mais...
Oui, parce qu'il faut voir de quoi on parle.
Mais l'électronique, des fois, on se dit, mais c'est pas de la musique. Enfin, c'est bizarre, parce qu'on n'écouterait pas ça en se réveillant le matin, on va se mettre un petit peu de... Je sais pas, tu vois, enfin... Et du coup, en fait, c'est pour ça que finalement, ce serait plus peut-être là une musique intellectuelle qui apporte de la réflexion... c'est comme une pièce de théâtre hyper poussée, machin. Il y en a certains qui vont pas la regarder juste pour se divertir, mais qui y a derrière, Novarina par exemple. Je veux dire, c'est pas divertissant non plus. Enfin, ça demande un travail de réflexion.
Je propose qu'on voit. Ah non, pardon, Bertrand, si bien si vous avez.
C'est un travail sur le matériel même de la musique. En fait.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça.
Donc on peut voir un peu ce que ça donne.
Oui, bien sûr. Alors
oui,
attends. Parce qu'en fait j'avais fait un truc chronologique, par exemple tu peux mettre. Mais non.
Faut sortir du plan, mademoiselle. Donc cliquetis,
Eliane Radig. On l'entendra un petit peu parler.
Alors nous allons voir Eliane Radig et elle va nous parler en plus.
Ouais.
C'est parti.
Il y a une certaine musique que j'ai eu envie de faire. Ça c'est pour commencer. C'était cette musique-là et pas une autre. C'est comme quand vous regardez la surface d'une rivière. Il y a des irisations qui sont... s'il y a les mêmes récifs qui ont l'air d'être les mêmes, mais ce n'est jamais vraiment tout à fait la même chose. Et selon le regard que l'on porte, on voit soit les éclats dorés du soleil ou au contraire la profondeur de l'eau, ou alors on voit cela flottant. C'est pas valable surtout dans une piscine où on peut voir le reflet dans le fond de la piscine des vagues, et où on peut avoir une vision globale de l'ensemble et se laisser porter par ce que j'appellerais le regard de rêve, que l'on rêve, ou alors tout d'un coup être attiré par un petit coin et on se fait son propre paysage. Là, on peut se faire son propre paysage sonore. Parmi les réactions que j'ai eues et que je trouve particulièrement justes à ce type de son, là je ne parle même pas de musique, c'est qu'ils ont une action qui est presque comme un miroir mental. Il reflète l'humeur dans laquelle on est sur le moment. Si on est prêt à s'y abandonner, à écouter véritablement, à se donner à l'écoute, ils ont véritablement un pouvoir de fascination, très magnétique. Vraiment, je le sais aussi, parce que sinon j'aurais jamais fait ça. C'était les deux extrêmes, l'un qui était tout jeté, puis l'autre moment d'être captivé. Mais je veux dire captivé, je ne parle même pas là de ce que j'en ai fait de ces sons. Ça, c'est une autre histoire, ce que j'en ai fait, la manière dont je les ai organisés. Mais je les ai surtout beaucoup écoutés. Écouter et écouter avec un infini respect, en essayant de les comprendre, de comprendre ce qu'ils voulaient dire, ce qu'ils voulaient raconter. Donc, bon, l'un des bon, ben là, voilà, ici, toi tu dis ça, tiens, toi tu dis ça, est-ce que ça, vous pouvez vous entendre tous les deux? Oui, ça a l'air d'aller, alors allons-y, continue.
Donc voilà, ça c'était qui, Mademoiselle Tabasco?
Oui, alors ça c'était Eliane Radigue, qui est toujours en vie aujourd'hui, et qui est l'une de nos plus grandes compositrices françaises à l'heure qu'il est. Elle a notamment travaillé avec un compositeur qui s'appelait Pierre Henry. Et en fait, elle s'intéresse beaucoup aux mouvances bouddhistes et de la musique spirituelle, etc., avec l'idée du Om, comme ça. Et donc avec l'utilisation d'une machine électronique qui s'appelait le Bushla. Elle essaye de faire justement le bruit comme reflet de notre mental, finalement, juste une fascination par le bruit.
Et elle explique en fait ce qu'elle fait en même temps qu'elle passe cette musique, c'est-à-dire que le bruit qu'on entend derrière...
Non, en fait, là c'était un documentaire, mais c'était juste pour... en gros, je trouvais que c'était bien comme elle expliquait. Et derrière, on entend juste ce bruit qui envoûte et qui fascine. Et c'est elle, enfin, elle passe 2 ans à faire ses compositions à chaque fois. Et en gros, elle cherche le bruit parfaitement en adéquation avec, oui, son âme, son mental, etc. En fait, c'est vraiment l'idée d'une illustration du reflet de sa propre âme.
Et elle fait plutôt partie du premier courant où elle écoute le son. Enfin là, elle dit qu'elle l'écoute
une
fois
c'est
comme ça. Et après,
c'est une espèce de fascination du son. Et elle se laisse totalement happer par la machine, essayer de voir toutes les possibilités de la machine, en ayant quand même une idée claire de la pièce qu'elle voudrait construire, soit en 3 parties, etc. Elle a notamment fait une pièce qui s'appelle La Trilogie de la Mort, et qui, en fait, voilà, c'est vraiment comme un itinéraire initiatique, enfin vraiment l'idée d'un processus comme ça. Et elle communie véritablement avec la machine, alors qu'en soi, c'est difficile de penser qu'il peut y avoir un mysticisme et peut-être aussi, qui sait, une spiritualité dans la machine électronique, mais elle essaie justement de rentrer dans cette vibe.
Oui, et pourtant, la machine, c'est donc la base de la musique électronique, et celle dont vous allez nous parler peut-être par la suite, Ada Lovelace, était une grande machiniste, inventeuse de machines.
Ouais, c'est ça, c'est un peu comme dirait Monsieur Fibien, finalement la Nostradamus de l'électronique, parce qu'elle a eu toutes les intuitions premières concernant ce qui allait devenir dans l'informatique. Et en fait, ce qui est assez ouf, c'est que c'est la fille du poète Byron.
Lord Byron.
Et elle est née donc du coup en 1815 à Londres. Mais elle connut à peine son père parce qu'il est parti en exil à la suite d'une sombre histoire d'inceste. Enfin, il avait joué au docteur d'un peu trop près avec sa demi-sœur. Et du coup, dès son plus jeune âge, Ada manifesta une originalité peu compatible avec les mœurs victoriennes, parce qu'en fait, elle aimait 3 trucs. C'était déjà la mécanique. Elle kiffait les machines à vapeur. Elle adorait les mathématiques et les mecs. Et du coup, dès qu'elle était gamine, en fait, elle avait un petit faible pour les précepteurs que sa mère lui imposait.
D'accord.
Et donc elle était partie en fugue plusieurs fois, ça lui a valu bon nombre de représailles.
Mais une femme libérée en avance sur son temps.
Ouais, mais le souci c'est que la flopée de médecins qui l'entouraient lui pronostiquèrent du coup diverses maladies nerveuses relevant de l'hystérie proprement féminine, évidemment. Et que seul l'apprentissage d'une science positive et rigoureuse pouvait potentiellement apaiser et soigner donc les mathématiques. Donc ce qui est cool, c'est que finalement les médecins l'ont encouragée à continuer les mathématiques.
Une chose qu'elle aimait déjà.
Qu'elle kiffait bien, donc tant mieux. Mais voilà, en gros, elle était tout le temps suivie par un médecin. Sous sa dictée, sous les dictées de son médecin, elle a dû écrire à 18 ans dans son journal qu'elle devait supprimer toutes sortes d'excitations autres qu'intellectuelles, se concentrer sur les mathématiques et améliorer ses relations avec sa mère. Donc déjà, elle était bien.
Le docteur, il a dicté son journal intime.
C'était terrible. Elle était suivie H24 quoi, par tout le monde. Et puis un jour, elle a fait la connaissance d'une grande scientifique écossaise, l'une des très très rares à cette époque encore. Donc c'est en 1832, elle fait la connaissance de Mary Somerville, qui avait popularisé un bouquin de Laplace qui s'appelait « La mécanique céleste ». Et qui avait amené un grand astronome à découvrir la planète Neptune. Mais bien évidemment, personne n'en a entendu parler. Et du coup, cette Mary Somerville, en 1833, un an après, a présenté à Ada Charles Babbage, qui était un éminent mathématicien et inventeur. Et cette rencontre marqua un tournant dans la vie d'Ada, puisqu'elle l'accompagnera dans la création de la machine analytique et la programmera. En fait, Charles Babbage...
Elle n'était pas toute seule, quoi.
Non, alors, on va reprendre les choses. Parce que... Donc, Charles Babbage, il avait composé... tout un plan et tout pour faire une machine analytique qui était finalement l'ancêtre de l'ordinateur. En gros, c'était vraiment comme un ordinateur qui avait pour but l'automatisation des calculs et qui en fait en gros servait à enregistrer des données, exactement comme un ordinateur, enregistrer des données petit à petit par simplement un contrôle que ces données soient... accessible directement, voilà, comme une calculette ou voilà, comme ça.
D'accord.
Mais c'était une espèce de grosse machine comme une imprimante avec des cartes perforées qui servaient de programme en fait.
C'est comme 19e siècle, ça.
19e siècle. Et en fait, Ada Lovelace, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a. Charles Babbage, il avait pas trop le temps, enfin, il était un peu occupé, un peu malade, tout ça. Et elle, elle a tout programmé la machine. C'est-à-dire que c'est elle qui a créé les cartes perforées. C'est comme des CD, comme des clés USB qu'elle avait créées simplement. Alors, je sais, moi, je m'y codais pas non plus énormément, hein, mais c'était vraiment un processus physique, mathématique et presque mécanique, voilà, de création de cartes, de disques durs externes presque, qu'elle mettait dans les machines pour pouvoir anticiper les réglages et les calculs et voilà, enfin, je sais pas si c'est assez clair. Et du coup, c'est elle qui a fait connaître cette machine, qui a traduit plein de, parce qu'elle était, c'était une tronche, elle parlait plein de langues. Du coup, elle avait traduit un article qui avait été écrit en français, elle l'avait traduit en anglais pour le publier un peu de partout. Elle avait ajouté des notes à toute cette machine, elle avait ajouté des programmes. Et le souci, c'est que, personne ne la connaît vraiment. Enfin, voilà. Mais en fait, en gros, c'est la première programmatrice informatique, parce que par cette création de cartes perforées. Et en fait, elle s'en fichait pas mal des modes victoriennes, parce que, elle s'habillait avec tout et n'importe quoi. Enfin, c'était vraiment une thug, hein, vraiment.
Ouais, ouais. C'est ce que j'étais en train de dire, là, vraiment.
Mais ouais, non, c'est ça. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on en parle vraiment très, très peu.
Heureusement, si certains... aujourd'hui, là pour bien la vérité. Ça.
Mais alors, si certains en parlent, c'est surtout pour la ramener au statut de fille de Byron, ou bien encore de muse de Babbage, alors que c'est quand même elle qui, derrière, a fait un peu la com' du mec, quoi. Enfin, et puis a un peu. Parce que même lui, il s'y connaissait pas trop, il croyait pas trop en sa machine, et c'est elle qui l'a poussé à perfectionner les recherches. Mais heureusement, de plus en plus, ses compétences sont réhabilitées, et c'est en son nom qu'ont été créés le Ada Lovelace Day. Pour exhiber les travaux des grandes compositrices de l'électronique qui a lieu tous les ans. Alors, je ne sais plus la date, mais c'est surtout aux States et au Québec. Et le collectif ADA Initiative qui veut contribuer à encourager les femmes dans les milieux technologiques et les cultures électroniques pour désamorcer tous les tourments sexistes qui nous entourent, quoi. Donc, en fait, en gros, c'est vraiment la première nana à s'intéresser au... Vraiment, c'est la première programmatrice informatique qui va peut-être après donner un souffle nouveau à... aux femmes et aux trucs qui vont venir.
Oui, c'est aussi devenu un symbole aujourd'hui, surtout aux États-Unis et au Canada.
Les Québécois, ils ont un peu d'avance sur nous en ce qui concerne l'avancée des femmes dans l'électroacoustique. Il y a beaucoup de choses qui sont faites là-bas. Et du coup, juste après Ada Lovelace, en fait, il y a une super nana qui est arrivée, qui s'appelle, enfin, son pseudo, c'est Dot Dalcorn. C'est toujours en Angleterre, en fait. Elle a contribué, cette nana, à la composition de Cliquetis-Clic, une pièce qui avait été écrite par John Parsons en 1887. Et en fait, donc Dot Dalcorn, elle avait créé en 1884 un instrument assez singulier au mystérieux nom de Mephisto. Et ça a été le premier instrument électronique. C'est une espèce de pivert métallique qui, c'est un peu particulier, qu'on plaquait contre un piano et qui venait taper selon la partition ou selon l'envie sur les touches du piano et contre le bois du piano et qui donnait des petits clic 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 comme ça. Et donc c'est peut-être ce qu'on va écouter là, juste pour avoir une petite idée de à quoi ça ressemblait.
Donc ça, c'était cliquetis-clic, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et en fait, ouais, c'est une espèce de... Je ne sais pas si vous avez entendu le tit-tit-tit-tit.
Ah, on a bien entendu, oui.
Et bien voilà, c'était cette espèce de petit truc là, métallique, je ne sais pas trop comment ça fonctionnait, qui était tiré et qui, comme ça, voilà, créait ce petit clic-clic-clic-clic. Voilà, donc ce qui est génial, c'est que cette femme a été en fait la première compositrice aussi d'électronique, puisqu'elle a été la première créatrice, enfin inventrice d'un... D'un instrument électronique et donc compositrice et interprète aussi de cet instrument. Et
lors de quelle année ça le morceau
1887. D'accord, 1887. Ouais, ouais. Et ce qui est chouette, c'est que donc l'instrument s'appelait le Mephisto. Et elle, lors de ses représentations, elle s'habille en Méphistophélès, en expliquant comment elle composait, elle comptait électrifier l'humanité. Et elle arrivait comme ça avec sa cape, et elle montrait l'instrument et tout. Et tout le monde était là. Oh,
c'était
Dieu,
une grosse mise en scène ou elle était un peu tarée aussi?
Ah, c'était une grosse mise en scène. Mais ouais, après, c'était un peu une dandy. Elle s'habillait un peu comme un
ouais,
mec.
Fin 19e, ouais, c'est décadente
ça.
Et tout.
Mais c'est exactement ça, avec un haut de forme, tout ça. Et puis elle arrivait, genre, je vais vous électrifier. Tout ça. Donc bon, voilà, c'était le premier instrument électronique.
Mais elle faisait ça sur scène aussi, donc.
Ouais, elle faisait ça sur scène. Mais après, c'était
donc c'est
pas
elle qui faisait
bien...
bouger elle-même son pivert.
Non, c'était tout mécanique. Enfin, c'était mécanique vraiment. C'était une petite machine qu'elle mettait en voilà. Et puis il y avait sa sœur qui jouait du. Enfin, sa sœur. Non, c'était pas sa sœur. C'est avec Clara Hockmoff, c'est sa sœur. Mais et donc John Parsons, lui, il jouait au piano derrière. Et puis voilà. Et ça avait fait un peu scandale, quoi.
Donc là, on a quand même quelque chose de très musical, je veux dire, par rapport au son qu'on a écouté avant,
oui,
avec le...
Ouais, alors, mais ça, faut pas oublier derrière. Que c'est plus tard, ça. Donc ça, c'est les tout premiers, c'est 19e, quand même. Donc après, par exemple, donc il y a eu Clara Rockmore qui est apparue, une quarantaine d'années plus tard. En fait, c'est tout simplement une légende. Alors, la meuf, elle est lituanienne. Déjà, à 5 ans, elle était au conservatoire, l'une des plus grandes violonistes. À 5 ans, un peu une thug, elle aussi. Et j'ai été un peu mauvaise langue lorsque je disais qu'effectivement, on ne mettait pas les grandes figures féminines de la musique électronique sur le devant de la scène, parce que notre Big Brother préféré, le moteur de recherche Google, a fêté l'anniversaire de Madame Rockmore le 9 mars dernier. Donc,
une triste ironie du sort. Google voilà. Récupère finalement non, cette bien bonne... Clara Rockmore.
Ouais. Mais alors.
Mais Montaigne was the Tug aussi.
Ouais, ça c'est chouette.
Donc on est là pour lutter.
Et du coup, alors Clara Rockmore, elle était violoniste à la base et en fait elle est devenue l'une des grandes légendes du thérémine. Alors est-ce que vous connaissez le thérémine?
Pas vraiment.
Ah, pourtant vous devriez, parce que la saison 4, épisode 12 de Big Bang Theory, Sheldon il joue du thérémine. Et derrière, dans Good Vibration de Beach Boys, dans les Good Vibration de Beach Boys, il y a du thérémine à la 1 minute 17 par là. Enfin bref. Bon, alors c'est quoi le thérémine? C'est une espèce d'énergumène électronique inventé en 1917 par un russe, évidemment, que ferions-nous sans les russes, du nom de Léon Thérémine. Voilà. Alors donc, en fait, ce sont simplement deux tubes métalliques, l'un horizontal, l'autre vertical, reliés à une espèce de coffret en bois, qui permettent chacun de faire varier la hauteur du son et son volume, sans toucher quoi que ce soit. En déplaçant seulement votre main droite. Donc en fait, c'est voilà, main droite, vous pouvez arriver à comment dire. Voilà, il suffit simplement de monter ou descendre votre main et vous arrivez à
tu modules le son, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. sans toucher quoi que ce soit. Donc tu varies juste la hauteur du son comme ça, son volume avec la main gauche, en déplacement de droite à gauche comme ça. Et en gros, c'est génial parce que elle est arrivée, même son compositeur, enfin son créateur, Léon Thérémine, était pas arrivé à avoir toutes les possibilités de son instrument. Et c'est Clara Roquemort qui a réussi à en jouer tellement bien qu'on, des fois, on avait l'impression que c'était une voix humaine ou un violon qui jouait.
Mmh. Et dans Good Vibrations, ça y est, je vois ce que c'était. Oui, c'est le moment qui s'appelait un ouh.
Oui, c'est exactement ça.
C'est l'ancêtre du synthé modulaire.
C'est clairement ça. Mmh. Et donc voilà, alors si on peut peut-être écouter.
On peut peut-être.
Alors là, ce sera Summertime version Thérémine. Vous allez voir, c'est assez fou.
Donc ça, c'était non pas quelqu'un qui chante, mais cet instrument, instrument magnifique, le thérémine, c'est ça.
C'est ça, c'est ça. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que Clara Roquemort, comme elle vient du classique, elle a décidé d'utiliser cet instrument vraiment comme, comme du violon, comme un instrument qui pourrait être classique, exact. Enfin, donc comme une voix, comme un violon, alors qu'à la base, c'est électronique.
Et c'est joué avec un piano, donc.
Donc là, ouais, là, c'est sa sœur qui était pianiste et qui l'accompagnait tout le temps en concert. Voilà, au piano. Donc voilà, c'est ce que je disais un petit peu au départ aussi. Finalement, on peut soit utiliser l'électronique comme instrument pour la musique, ce qu'elle fait ici plus ou moins, ou alors utiliser l'électronique pour dépasser la musique, la transcender dans une espèce de hors-musique ou de non-musique, et assumer cette recherche d'une expérience, d'une autre musique, d'un au-delà. Et c'est par exemple ce qu'a commencé à faire Dahlia Derbyshire, qui était ce que j'appellerais l'extraterrestre de la BBC.
De la BBC, là.
Mais ouais. La radio. Alors elle, c'est un peu incroyable son parcours. En fait, elle vient d'un coin paumé en Angleterre, donc de Coventry, classe ouvrière, etc. Donc elle avait normalement pas, enfin c'était pas gagné pour elle de s'en sortir parce que voilà. Et en fait, elle a décidé d'aller à l'université de Cambridge pour lire les mathématiques. Ce qui était quand même quelque chose pour une fille de...
Lire les mathématiques.
Elle dit ça comme ça.
Ah d'accord.
Ouais, okay. Lire les mathématiques, c'est son expression. Pour elle, c'est vraiment une lecture comme une autre. Enfin, c'est... et donc, elle est allée à Cambridge apprendre les mathématiques. Et en fait, elle a... donc là, je la cite. Je vais juste vous lire ce qu'elle dit. Parce que j'avais traduit ça. Elle avait fait une interview dans le Surface Magazine en 2000. Où elle explique un peu comment elle en est arrivée à aller à musique électronique, etc. Donc elle dit, en parlant de voilà, « J'ai fait en sorte de persuader les directeurs de mon école de m'autoriser à changer de voie pour me diriger vers la musique, allant à l'encontre de leur opinion, parce que les mathématiques, c'est pas du tout la musique, enfin voilà, c'est pas du tout compatible. Du coup, après mon diplôme, je suis allée au bureau des carrières, le Careers Office. J'ai dit que j'étais vraiment intéressée par les questions du son, de la musique, de l'acoustique, pour lesquelles ils me conseillèrent d'entamer une carrière dans les sondages à main ou dans l'aide aux personnes malentendantes.
Merde.
J'ai donc postulé pour un boulot au Decca Records, le fameux studio d'enregistrement. Donc le patron de ce Decca Records était à Lords pour aller voir un match de cricket le jour de mon entretien, mais son conseiller m'a dit qu'il n'employait pas de femmes dans les studios d'enregistrement.
Oh.
Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que le Decca Records, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est le même studio d'enregistrement qui a refusé les Beatles parce qu'ils considéraient qu'ils étaient trop nazes et tout. Et puis...
Donc c'est le mec qui a tout faux dans le siècle.
Ils ont du pif, quoi, les gars. Et donc, suite à ce refus, en fait, elle se tourne vers la BBC en 1960 parce qu'elle savait que la BBC comportait un département de recherche et qu'il n'y avait rien de mieux que de travailler dans le Radiophonic Workshop. Donc, c'était en fait un... Ce qui est génial, c'est que c'était un truc qui a été créé par Daphne Oram, celle de la photo de l'émission.
Enfin, avec les lunettes.
Avec les lunettes et les ondes. Et donc, ça avait été créé en 1958 par Daphne Oram et son collègue Desmond Briscoe, et qui est elle aussi un grand nom dans l'élaboration de techniques électroniques, parce qu'elle avait inventé une technique de son dessiné en 57 du nom d'OracMix. En fait, par exemple, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, sur les ordinateurs, on arrive à dessiner des ondes pour, par exemple, moduler le son.
D'accord.
Quand tu fais genre plus haut,
triangle,
plus haut,
triangle,
sinusoïdal, etc. Ouais. Et en fait, Daphne Oram, avec ses OracMix, elle a réussi à dessiner sur des espèces de petites vitres transparentes des ondes comme ça. Et une machine, elle avait créé une machine qui pouvait les lire et qui du coup arrivait à voir l'onde dessinée et varier son son.
Ah ouais, ça traduire suffit, en ouais. fait.
Voilà. Ouais. Et donc c'est cette même Daphne Oram qui a créé donc cet endroit Radiophonic Workshop où on pouvait faire des expérimentations radiophoniques. Et donc Dahlia Derbyshire a été acceptée dans ce workshop et a travaillé à la BBC. Et pourquoi Dahlia Derbyshire est normalement connue? Eh bien, parce que elle est connue dans une série télé pour son générique. Enfin, peut-être on peut le mettre, histoire de faire un petit peu de... Voilà.
Saisis, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Dahlia Derbyshire a inventé le générique de Doctor Who.
Ouais, en fait, c'est un thème qui avait été écrit par un homme, Ron Grainer, mais il ne savait pas traiter les sons pour faire une ambiance un peu mystérieuse, spectrale et un peu futuriste. Et donc, Dahlia Derbyshire, elle a fait « Attends mec, t'inquiète pas, je vais m'en charger parce que moi je m'y connais mieux que toi en électronique ». Et c'est elle qui, avec des machines qui s'appellent des synthétiseurs EMS, qui est un créateur de synthé, etc. Elle a bidouillé ses sons pour faire cette ambiance un peu, voilà, soucoupe volante et tout. Et elle l'a fait seule, hein, elle a créé l'arrangement toute seule. Et alors, juste pour l'anecdote, elle a presque donné à Paul McCartney une version de Yesterday avec un arrière-plan électronique à la place des cordes.
Bon, ça avait pas presque donné.
Ça n'a pas donné le jour. Enfin, ça a pas. Malheureusement, il n'a pas été publié après le son, etc. Enfin, bref, bon, c'est une sordide histoire. Mais en gros, voilà, elle les connaissait bien. C'était une pote de Yoko Ono. Enfin, il s'était passé des choses entre eux. Dans une interview, elle n'en parle pas trop, mais il paraît que c'était un peu. C'était un peu des partouzes, un peu de partout, donc bref.
Les années 60.
Ah, les années 60, quoi. Que... Et donc, elle aurait fait aussi la BO d'un court-métrage de Yoko Ono, mais ça non plus, ça n'a pas été retrouvé. Il devait être vraiment... Voilà, voilà. Et donc, voilà, c'est comme ça. Bon, après, il y a beaucoup de contemporains hein, qui la célèbrent aujourd'hui.
Pas tant inoubliée que ça.
Non, ça va. Mais après, c'est vrai qu'on la connaît pas non plus. Enfin,
elle n'est pas connue du grand public.
Ouais, c'est ça qui est dommage. Mais bon, il y a Aphex Twin, Kraftwerk, Pierre-Henri qui lui ont rendu pas mal hommage. Brian Eno aussi, Broussac, voilà. Donc bon, voilà. Alors, ça m'amène au fait que même si de plus en plus on prend conscience des inventions, des découvertes et des créations de ces femmes et d'autres, il est encore difficile de s'épanouir dans ces milieux électroacoustiques, tant le milieu est rude d'allusions sexistes et d'impasses misogynes, comme le DKW Codes qui veut pas embaucher des femmes, même si c'était dans les années 60 quand même. Enfin, voilà,
c'est
ça
sûr
a pas
que
beaucoup,
ça met un frein, quoi.
Ça met un frein. Donc, peu de publications aussi en français ont été publiées sur ces problèmes-ci. Et la plupart des articles écrits et publiés sur le sujet sont en anglais, américain ou canadien. J'ai notamment trouvé, après maintes recherches, les trois premiers numéros de la revue électroacoustique e-Contact, tenue par la communauté électronique canadienne. Mais c'est en 1998. Donc, ça date encore et depuis, il n'y a pas eu grand-chose qui ont été faites. On peut les retrouver d'ailleurs sur la plateforme web e-contact. Enfin bref, c'est super intéressant. Et notamment, lors de ces trois revues, il y avait une compositrice contemporaine qui s'appelle Pascale Trudel, qui est aussi artiste multimédia et concepteur de sites web. Je vous conseille d'ailleurs d'aller visiter son poème interactif qui s'appelle Amazon sur son site Studio Dragon. C'est génial. Enfin, tu cliques sur des images, ça t'amène à des poèmes, à des vers, tout ça.
Ouais, c'est intuitif, tu suis vraiment...
Ouais, c'est ça qui est fou, c'est que... Enfin, bref, c'est hyper intéressant. Et elle expliquait donc dans cette revue, sous forme d'un journal intime qu'elle donnait à lire à l'internaute et à nous autres, combien est ancré dans l'inconscient collectif que les femmes ne sont pas faites pour la technologie. Elle reprenait notamment le livre de Virginia Woolf, Une chambre à soi, dans lequel Virginia Woolf citait un mec qui avait, Cecil Gray, qui avait écrit un livre en 1928 sur la musique contemporaine. Et il disait, alors ça m'a choqué. Monsieur, une femme qui compose est comme un chien qui marche sur ses pattes arrière. Ce n'est pas bien fait, mais on est surpris de voir que cela soit fait quand même. Donc elle s'offusque carrément parce que ça, c'était donc en 1928 que Virginia Woolf écrivait ça au sujet de ce livre. Et donc Pascale Trudel dit que cette phrase la hantait depuis la première fois qu'elle l'avait lue. Elle dit ensuite, en électroacoustique, il y a encore si peu de femmes compositeurs que je me sens parfois comme une curiosité. À l'université, où il n'y avait jamais plus de deux femmes par classe, aux nombreux concerts où il semble parfaitement normal de ne jouer que de la musique faite par des hommes, dans les magasins d'instruments de musique et d'informatique, où il est impossible parfois d'attirer l'attention des vendeurs lorsqu'on est une femme. Lorsque j'interroge les gens sur le fait qu'il y a peu de musique composée par des femmes qui est jouée en concert, on m'a déjà donné comme réponse que c'est parce que les petites filles ne s'intéressent pas à la technologie. Donc, dans l'intérêt public, je me vois obligée de dévoiler une partie de mon enfance anormale qui explique peut-être le fait que je compose de l'électroacoustique et que je suis une femme. Donc elle explique que quand elle était petite, elle avait eu un camion de pompier et qu'elle avait eu un petit magnétophone et qu'en fait elle adorait les sons et qu'après l'université, ça l'a bloqué parce qu'il n'y avait plus de femmes dans l'école et les cours électroacoustiques, tout ça. Et donc, alors que maintenant, finalement, elle a créé son propre studio d'enregistrement et qu'elle essaye de faire entendre tout ça, quoi. Et donc, parmi celles qui sont aujourd'hui peut-être des grands noms finalement de la musique électroacoustique, donc il y a celle qu'on a entendue tout à l'heure, Eliane Radigue, qui parlait de son son un peu bouddhiste.
Parlait sur le son, voilà, bouddhiste avec le vambouissement derrière.
Ouais, mais elle est incroyable. En plus, elle a une vie assez ouf. Le parrain de son premier gosse, c'était Yves Klein. Et donc elle a côtoyé beaucoup d'artistes et tout, bref. Mais on peut aussi noter Chantal Dumas, qui elle en fait vient vraiment de la radio, qui a fait des documentaires radio, qui a eu beaucoup de prix notamment. Alors je l'ai noté, 2 fois primée au concours Phonurgia Nova avec Le Petit Homme dans l'oreille, Le Parfum des Femmes, etc.
C'est-à-dire du documentaire radio
C'est-à-dire qu'elle est avec son magnétophone, son micro, et qu'elle va enregistrer sur place comme un reporter radio, quoi, les bruits, etc. Et elle s'intéresse beaucoup...
partir de ça, elle fait des créations artistiques.
Voilà, elle fait des créations artistiques à partir de ça. Et elle a fait une performance en 2012 qui est super intéressante, qui s'appelle le vivant bruit du corps. Qui est en fait une installation sonore interactive et immersive qui met en scène 2 chaises droites en bois. Et le son généré provient de l'amplification des craquements de la chaise dans un cas et du son produit par une prothèse. Mmh. Des petites billes de métal roulant dans un bouchon en tôle galvanisé dans l'autre. Et c'est-à-dire que les gens, ils venaient sur scène, et ils s'asseyaient sur les chaises, ils essayaient de voir le craquement, entendre la bille et tout, et elle les enregistrait. Et après, elle en faisait une œuvre totale. Et donc, les gens s'amusaient à essayer de voir toutes les possibilités du son des chaises, etc. Et là, peut-être dans l'extrait qu'on peut écouter... Alors j'ai mis le son dans son intégralité, mais il faudra couper. Hein, mais elle parle d'un piano qui est en train de se faire accorder, et elle raconte en anglais tout ce qui se passe dans la pièce à ce moment-là, des corbeaux qui volent, qui croassent, elle qui marche sur le plancher, qui fait craquer tout ça, etc. Et donc c'est très immersif, mais en même temps c'est une création en studio, ça aussi. Donc c'est ça qui est assez étonnant. Et voilà. Donc Chantal Dumas.
On va voir ça. Piano.
I like this piano. It's mine. It's a bit out of tune. I've asked the tuner to come. The piano is in a place where people come and go. It's not ideal, I know. I will show you the apartment. Here is a big room next to the piano. And here, a closet. That's why the sound is a bit muffled and dull. At the end of the hallway are the bathroom, the kitchen, and the balcony. And it's crow.
C'est un corbeau, c'est pas une corneille.
Between those two poles, the balcony and the piano, there's a sound studio where I'm talking to you. For long periods, I don't play. I watch the instrument, approaching closer, then moving away.
Et donc ça, c'était
Chantal Dumas.
Chantal Dumas, The Piano.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Tu te moques de mon accent.
Mais non, pas du tout, je ne me permettrai pas.
Et c'est de la musique, ça.
Bah justement, c'est ça, c'est aussi. Ouais. Bah, est-ce que c'est de la musique ou pas? Parce que, voilà, effectivement, c'est électroacoustique parce qu'il y a l'utilisation de micros, d'haut-parleurs, d'ordinateurs pour générer tout ça, même de modulateurs, etc. Peut-être aussi des synthés pour bidouiller ensuite dans la suite du morceau, etc. Mais est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est de la, peut-être un au-delà de la musique, presque littéraire finalement, parce que ça raconte quelque chose, c'est un schéma narratif aussi assez précis. Donc là, le débat reste ouvert. Hein. C'est
ouais,
des questions que je me pose.
Une chanson, ça raconte une histoire aussi, généralement.
Enfin, ouais, mais le souci, c'est que...
Musique, là, il y a quand même un instrument, c'est mélodieux.
Ouais, mais est-ce que c'est mélodieux, justement?
Ah oui, moi, je trouve.
Un peu plus que le son méditatif de...
Ouais, mais alors, pourquoi le son méditatif, il serait pas mélodieux, par exemple? C'est ça aussi, parce qu'il y a une
parce mélodie...
Parce
qu'il n'y avait pas de variation, réellement. Le bruit restait... continue.
Mais les variations, en fait, elles viennent au fur et à mesure, elles vont changer juste une...
C'est très progressif.
C'est très progressif. Et effectivement, ces compositions à Eliane Radic, par exemple, elles durent des fois 2 heures ou des choses comme ça. Mais il y a une variation à un moment donné. Donc, quelque part, ça peut être de la musique. Alors, est-ce que la musique, ça rime avec harmonie? Est-ce que ça... Voilà, c'est des questions qui se posent.
Sinon, mais ça, c'est des questions qui touchent un peu à la philosophie de l'art. Mais si on part de, je sais pas, des livres de Arthur Danto, par exemple, pour dire qu'à partir du moment où la personne qui signe une œuvre d'art est musicienne et qu'elle prétend faire une œuvre qui est une œuvre de musique et qu'elle est reconnue comme telle, et ben, on va dire que c'est de la musique.
Ouais, c'est vrai. Mais
ça coupe un peu court au débat.
c'est
une réponse possible.
Bien sûr. Mais après, c'est vrai que c'est un peu facile parce que la plupart des critiques qu'il y a finalement contre la musique électroacoustique, c'est genre ouais, c'est chiant, il y a pas de mélodie, il y a pas de rythme, c'est que des.
Le niez-vous. Le niez-vous.
Bah moi, je le nie un peu, ouais, carrément, parce que c'est super intéressant quand on commence à s'y plonger dans ces questions-là. Après, on trouve plein de références et c'est vraiment passionnant. Et surtout que c'est les musiques de demain aussi quelque part.
Pourquoi les musiques de demain? Parce que excusez-moi, mais quand j'écoute la radio, j'entends pas vraiment ce genre de musique en général.
Ouais, mais c'est ça qui est dommage,
parce que
c'est
aujourd'hui.
Pas...
mais ça arrive, c'est ce que vous voulez dire.
Non, mais c'est ça qui est dommage, c'est que c'est peut-être pas aussi assez popularisé, alors que.
Mais alors c'est que pas mainstream, ça... quoi.
Mais alors que c'est finalement assez accessible, il y a de plus en plus Chantal Dumas, par exemple, qui essaye de les rendre accessibles, et qui a du coup commencé par la radio et par des émissions radio, et puis par ces espèces de performances interactives aussi, où elle engage le public à composer lui également des sons, quoi. Et du coup, c'est la musique de demain, parce que peut-être que c'est aussi tout ce qu'on disait des questions, finalement, peut-être d'arrêter aussi les étiquettes de cette musique est comme ça, c'est de la musique, c'est de la littérature, c'est de l'art, oui, c'est de oui, machin et tout. Oui. Et que c'est vraiment un art total au final, et un art ouvert à toutes les improvisations possibles.
Mais par rapport à la musique de demain, malheureusement, je pense qu'on, enfin, malheureusement, ou pas, je pense qu'on peut se poser la question, parce que je sais pas si vous savez, les Pink Floyd, après Dark Side of the Moon, prévoyaient de sortir un album qui aurait été composé de musique qui provenait uniquement de bruits qui ne venaient pas d'instruments. Donc, par exemple, faire taper une cuillère contre un bol ou des trucs comme ça.
Donc, de l'électroacoustique.
Dans Atomart voilà. Mother, il y a des bruits de petit déjeuner et tout.
Voilà, c'est, ouais, dans, ouais, genre, c'est Alan Speak ah, oui, ouais, Breakfast. Pardon, ouais, mais alors, mais ça, je veux dire, c'est accolé à une musique qui est derrière. C'est des passages dans le morceau, mais là, ils voulaient faire des musiques qui soient intégralement faites.
Que ça. Comme John Cage, voilà. En fait, ça revient dans les mêmes. Mais c'était la mouvance aussi.
Ça fait un petit moment que ça travaille les musiciens. Quoi.
Ouais, non, ça travaille les musiciens, mais après, maintenant, avec les progrès aussi technologiques, électroniques, les synthétiseurs qui de plus en plus évoluent donnent de nombreuses possibilités encore multiples, etc. Il y a aussi un son qui devient de plus en plus malléable, c'est-à-dire qu'un simple signal peut après engendrer des péripéties musicales incroyables, quoi. Donc, c'est ça aussi qui.
Il n'y a pas longtemps, il y avait Jean-Michel Jarre qui disait qu'on était aujourd'hui capable de reproduire tous les sons du monde.
Mais oui, mais c'est pas étonnant.
Juste, Mademoiselle Tabasco, par rapport à ce qu'a dit Sophie sur Alan's Psychedelic Breakfast, moi, je voulais vous poser une question sur. Revenir sur la définition de l'électroacoustique, parce que finalement, j'ai pas bien compris. Est-ce que le morceau Alan's Psychedelic Breakfast, c'est plus de l'électroacoustique qu'un morceau qui serait entièrement composé de bruits de cuillère sur un bol, par exemple?
Mais c'est ça en fait qui est embêtant, parce que
les deux correspondraient à la définition de ce qu'on appelle électroacoustique.
Ouais, mais totalement. Mais après, le souci, c'est que c'est pour ça que je suis un peu contre les étiquettes aussi, parce que c'est bien beau tout ça, mais finalement, voilà. Parce que même quand je disais Ravel qui utilisait des râpes à fromage ou Satie qui utilisait des machines à écrire, quelque part, si on suit la logique, bon, il n'y avait pas de l'électronique, mais il y avait quand même des bruits acoustiques, et finalement, ils en faisaient aussi quelque part. Donc, je pense que la musique électroacoustique, elle contamine plus que ce qu'on, enfin, les musiques plus qu'on le croit en fait.
Oui, parce que par exemple des bruits quotidiens, si on rajoute pas d'électronique, c'est de l'acoustique.
Non, c'est de l'acoustique,
mais on peut dire dans la mesure même où c'est enregistré que c'est mis en musique.
C'est ça. Mais de toute façon, c'est l'électroacoustique, même si. Après, voilà, c'est dans la visée du créateur en fait, s'il veut, comme on disait, faire soit une musique plus concrète, juste avec les bruits environnants et tout, soit une musique peut-être plus intellectualisée avec l'électronique comme simple moyen d'y parvenir. Donc finalement, c'est dans les enjeux peut-être qu'il y a une division je sais pas.
Je pensais qu'on, enfin, j'ai pensé quelque chose tout à l'heure quand vous parliez de, alors je me rappelle plus leur nom, mais la fille de Byron notamment,
Ada Lovelace.
Voilà, la conception selon laquelle les femmes sont pas faites pour la technologie. Récemment, il y avait un film qui en parlait un petit peu. C'était The Imitation Game avec Benedict Cumberbatch et surtout Keira Knightley. Et on montrait que dans la salle, au début, elle peine à rentrer parce qu'on lui dit qu'est-ce que vous faites là. Et surtout, elle finit en premier. Et finalement, elle a joué un rôle majeur dans le c'était pour les services secrets anglais, pour l'interception et le décryptage des messages.
Et le souci, c'est qu'après, par exemple, Ada Lovelace, elle a eu pas mal de problèmes pour rentrer dans les bibliothèques. Parce que même au 19e siècle, les bibliothèques, elles n'étaient pas ouvertes aux femmes. Ouais. Et donc, le souci, c'est qu'après, elles sont. Enfin, on les cloisonne. Après, elle a dû faire des gosses parce qu'elle était obligée, plus ou moins. Donc, heureusement, elle a préféré les équations à ses gamins. Enfin, heureusement, je sais pas. Mais
Bertrand ne démentirait pas. Je n'en tirerai pas, pardon.
Mais après, à chaque fois, il y a cette espèce de devoir maternel qui est toujours relancé. Il y a un moment, les femmes, elles doivent procréer. Et donc, elles mettent entre parenthèses la vie professionnelle, parce que voilà. Puis elles y reviennent. Et c'est ça qui est dommage aussi, c'est qu'on ne les entend peut-être pas aussi assez. Enfin, on ne prend pas en compte toutes les innovations qu'elles ont créées, quoi.
Voilà, mais c'était tout ça pour dire que voilà, y compris dans les années 40,
c'est de partout.
Et pourtant, elles ont joué, elle, cette femme, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, donc c'est celle qui est incarnée par Keira Knightley, a joué un rôle majeur, quoi.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Et est-ce qu'il y a une musique féminine, alors, disons-nous? Parce qu'il y a des musiques en retard, donc, sur le plan, puisqu'on a montré que l'électroacoustique, notamment, la place des femmes, était en retrait. Si on parle du rap, ce sera pareil. Peut-être que si on parle du rock, je sais pas, je connais pas trop en rock. Et est-ce qu'il y a une musique, alors, où les femmes sont à l'honneur, ou pas?
Bah, moi, après, je pense pas qu'il faille parler de ça comme ça. Enfin, faut arrêter peut-être aussi de genrer la musique, tout simplement. Et donc, voilà. Alors, je pense qu'effectivement, la musique n'a pas de sexe, parce que finalement, la musique et les bruits sont amphibiens. Voilà. C'est pour vous, Bertrand Amphibien. Je vous laisse rebondir.
Donc, c'est-à-dire que c'est l'heure de la chronique de Bertrand, c'est ça?
Petite transition.
On a un petit jingle ou pas?
C'est possible, c'est possible.
Sinon, vous la faites à cappella, monsieur Tog.
Oui, donc on a eu un petit problème, excusez-nous, de technique. On a été coupé par la CIA, qui a intercepté notre, voilà, la chronique de Bertrand. Donc la chronique de Bertrand est remise à un peu plus tard. Et en attendant, nous allons écouter Anne Le Baron, c'est
ça ? Oui, alors c'est un morceau qui s'appelle Concerto pour Active Frogs, donc pour la grenouille active, voilà, avec des bruits de grenouilles.
La grenouille active au sens sexuel ?
Ah ben, je ne sais pas, on verra.
D'accord. S'excuse auprès des quelques auditeurs qui nous restaient parce que bon voilà c'était fort peu mélodieux mais voilà intellectuellement très intéressant, très pertinent. Donc c'était Anne Le Baron, des coassements de grenouilles,
concerto voilà pour Active Frogs, voilà, Active... Et en fait c'est des sax qui font le bruit des grenouilles,
c'est ce qui va nous permettre d'introduire la magnifique, heureusement, chronique de Bertrand.
La chronique de Bertrand. La chronique de Bertrand.
Oh. Ah. Oui, alors bonjour et donc bienvenue dans cette chronique. Vous entrez dans la chronique. Et donc cette chronique, donc nous avons parlé de musique depuis le début de l'émission.
On a cru parler de musique.
Voilà, et on s'est posé d'ailleurs la question, qu'est-ce que vraiment la musique, est-ce que la musique ? Et on peut se demander, d'ailleurs si on peut se demander qu'est-ce que la musique, aussi d'où vient la musique, parce que, est-ce que, enfin, je sais pas, vous qui êtes une experte, pouvez-vous nous dire à quand date la création de la musique ?
Mais non, évidemment.
Voilà, personne ne peut nous dire.
Elle a toujours été, peut-être.
Voilà, peut-être, elle a toujours été. Mais alors, mon hypothèse est celle d'une théorie très, très intéressante et très pertinente. Donc, une théorie formulée par un de mes amis grenophiles, qui s'appelle donc André Nett, et qui a donc postulé que ce sont les grenouilles qui ont inventé la musique. Alors, pour expliquer un peu cela, il faut comprendre que la musique ne viendrait pas vraiment de notre monde, en fait, finalement, parce que on pourrait postuler que la musique vient d'un monde antérieur au nôtre, étant donné que dans la musique on peut entendre le silence. Enfin, la musique, il y a même des notes sur une partition qui s'appellent des silences, je crois, des espèces de petits ronds, je sais pas quoi. Donc, la musique nous fait entendre le silence, alors que certains postulent que dans le monde le silence n'existe pas, parce que quand il y a silence, on entend toujours quelque chose. Même on entend nos organes, nos propres organes à l'intérieur de nous. Le vrai silence, le silence pur, donc n'existerait pas. Et donc si la musique, elle nous fait entendre le silence, c'est qu'elle viendrait d'un autre monde, un monde donc avant le nôtre où le silence existerait. Alors bon, quel rapport avec les grenouilles, me direz-vous ? Eh bien, les grenouilles sont sont bien sûr ces êtres qui viennent d'un autre monde. Étant donné que ce sont des créatures qui sont la créature antédiluvienne par excellence, étant donné que c'est la seule créature qui a pu survivre au déluge et qui a connu le monde d'avant le déluge, donc cet autre monde où peut-être le silence existait et où donc vient la musique. Donc qu'est-ce qui nous permet de dire que la grenouille est une créature antédiluvienne? Donc déjà, peut-être avez-vous vu le film d'animation La prophétie des grenouilles?
Oui.
Je sais pas, bon voilà. Et donc,
quand j'étais aussi, il m'avait fait peur.
Ouais. Ah bon?
Désolé.
Mais pas grave, mais en tout cas, donc les grenouilles, parce que nous savons tous que les grenouilles donc, prédisent la météo, hein,
ah oui,
en montant sur des petites échelles, notamment. Et donc les grenouilles ont prédit, donc dans ce film-là, qu'il y allait avoir un déluge, donc elles ont prévenu un peu tout le monde. Et voilà, donc elles ont quand même un rapport avec le déluge, elles savent que le déluge arrive, donc elles ont le temps de se préparer et tout, donc pour pouvoir lutter contre le déluge. Et donc bien sûr, ce sont des créatures amphibies, donc qui donc ont connu la terre d'avant, qui ont donc résisté au déluge dans l'eau, etc., et qui ont connu la terre d'après, parce qu'on va me dire que les poissons aussi, sauf que les poissons n'ont pas du tout les mêmes portées, étant donné qu'ils ont connu que l'eau et jamais la terre d'avant.
Et ils donc, ont une mémoire.
Voilà, et en plus ils ont une mémoire de poissons rouges, donc ils se souviennent plus de ce qu'était la musique. Donc les grenouilles auraient inventé la musique parce qu'elles viennent de cet autre monde, en fait. Donc oui, voilà, donc dans ce qui concerne la musique, on peut dire qu'au commencement était la grenouille, et la grenouille nous a également apporter toute la gamme des arpèges, etc., et donc toutes les tessitures possibles. Donc si on prend par exemple 7 grenouilles de races différentes et qu'on entend leur coissement respectif, on pourra avoir un do, un ré, un fa, un mi, un sol, voilà, etc. Et même dans la tessiture, vous savez que les grenouilles donc, ne coissent pas toutes pareilles, donc il peut y en avoir des longs, des courts, et donc ainsi on a toute la tessiture, etc. Donc toutes les notes sont dérivées du rythme du chant de la grenouille, donc avec une blanche pour une longue, par exemple, une noire, une courte, etc., etc. Donc, en gros, avec toutes les grenouilles, quand les grenouilles se réunissaient, elles nous apportaient un véritable concert en multipliant les notes, etc. Et les notes. Et il y aurait même, d'ailleurs, des notes, enfin, une note particulière que seules les grenouilles sauraient proférer et qui nous demeurerait inconnue, car, bien sûr, donc, le langage venant d'un autre monde, il y a quand même quelque chose qui n'est pas à notre portée, donc ce qui fait qu'on a du mal aussi parfois à expliquer un peu la magie de la musique. Et mais par contre, donc une trace que nous avons de cette note magique, note des grenouilles que nous ne connaissons pas, donc la 8e note, et la première version de la chanson de Bobby Lapointe. Donc vous connaissez la chanson La maman du poisson de ouais. Bobby Lapointe. Et bien en fait, il aurait écrit une autre chanson qui nous donnerait une trace un peu de ce fait que les grenouilles ont un pouvoir particulier par rapport à notre. Donc pour remettre un peu dans le contexte, vous avez peut-être tous remarqué quand donc on entend toujours les grenouilles chanter dans nos jardins, etc., la nuit, etc., mais jamais les chiens dans les jardins, qui normalement au moindre bruit aboient, ils n'aboient pas quand les grenouilles sont en train de chanter. Eh bien, c'est parce qu'il y a une note particulière que produisent les grenouilles et que les chiens n'entendent pas. Et donc la chanson de Bobby Lapointe, donc qui date d'avant La maman du poisson, donne à peu près ceci. Donc je vais chanter, attention. Si on n'entend jamais aboyer les cabots sur les petites grenouilles, c'est que jamais quand elles entament leur chant, ceux-ci ne les entendent. La grenouille du marais, elle est bien gentille. Donc voilà, c'était à peu près ça. Et donc...
C'est véridique ce que vous avancez.
Oui, bah, bien sûr. Et donc, cette note donc, que les grenouilles produiraient et qui ne serait pas entendue non seulement par les chiens, mais par finalement personne d'autre, ce serait une note que l'on appellerait le Fi. Donc, on aurait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Fi, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Fi, Do, etc. Et La, Si, Fi, Lis, non, La, Si, Fi. Et on retrouve ce Fi donc, que tout le monde semble avoir oublié et que nous ne connaissons pas parce que nos oreilles ne sont pas capables de l'entendre, elle se retrouve quand même dans la langue, bien sûr.
À part les vôtres. Vos oreilles peuvent les entendre, monsieur.
Bien sûr, parce que je suis en partie amphibien, moi aussi. Donc, par exemple, vous connaissez donc l'orchestre philharmonique. On entend le phi au début de ce mot. Enfin, la philosophie est entourée par le fil de phi de la grenouille. Donc, la philosophie, donc, c'est ce qui nous apporte un savoir peut-être d'un autre monde, pourrait-on dire. Ou alors, là, donc, nous avons plein de mots. Là, la pataphysique. Nous avons les salsifis ou la syphilis, nous l'avons dit, mais ou sinon le finalement, ou même alors il y a des mots carrément qui ont un sens par rapport à ce fil. Donc par exemple, on dit qu'on prend quelqu'un en filature. Quand on prend quelqu'un en filature, est-ce qu'on se qualifie en se cachant et donc en se servant de cette note cachée que les autres ne peuvent pas entendre. Oh. En filature. Et donc et faire fi de quelque chose, c'est ne pas le prendre en compte. Donc c'est utiliser cette note aussi que nos oreilles ne prennent pas en compte. Et nous entendons par exemple dans le Luffy de One Piece, donc ce célèbre manga, Luffy, nous entendons ce fi qui fait référence bien sûr à la langue de la grenouille qui s'allonge comme les membres de ce personnage s'allongent
en chewing-gum
dans le manga. Etc. Donc nous avons le salsifi, donc le fil harmonique, le firmament, le finalement.
Nous avons Sophie ici présente.
Sophie est derrière,
également.
Pataphysique.
Moitié dis, présente. Bon, on va pas,
ah ben justement.
On va pas donc épiloguer toujours sur ce fil là-dessus. Donc nous pourrions dire d'ailleurs que ça suffit. Et voilà, donc l'important donc, dans tout ça, donc, nous l'avons dit, c'est que la musique donc, ne vient ni des hommes ni des femmes, donc elle n'est pas genrée, donc elle est en féminine, elle vient des grenouilles, parce qu'elle nous vient de cet autre monde que les grenouilles ont connu, et que nous, malheureusement, ne connaîtrons jamais.
Magnifique.
Bravo, monsieur Fibien. Nous applaudissons de demain à cette chronique pertinente, à la fois philosophique, scientifique et poétique.
Et par contre, si je peux faire mon Schopenhauerien, Schopenhauer ne dirait pas que la musique vient de notre monde, mais qu'elle est le monde carrément. C'est peut-être encore plus radical.
Oui, certes.
Bon, voilà.
Et je pense qu'on peut terminer l'émission d'aujourd'hui sur cette magnifique phrase de Monsieur Yonegro. La musique est le monde. La musique renouvelle le monde. La musique nous enlève au monde. Et continue d'écouter la musique sur Radio Canu.